Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cinémag, le magazine du cinéma art et essai du Drouet. Aujourd'hui, parmi les films qui passent ou vont passer bientôt à Ciné-Centre, un film tout à fait hors norme, L'œil du cyclone, un film burkinabé dont vont nous parler Christelle et Sandrine.
Donc, L'œil du cyclone se passe dans un pays d'Afrique non identifié, en proie à la guerre civile. Un homme nommé le rebelle vient d'être arrêté lors du massacre des habitants d'un village et on demande au maître Emma Tou, avocate bien sûr, de défendre le cas de cet homme. C'est un procès joué d'avance que nous allons suivre tout comme la population du pays à la télévision et à la radio.
Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce film aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs intérêts à ce film. Je pense que c'est un film qui a un sujet très, très fort. Hein. C'est un film très poignant, il faut le dire. Bien sûr, encore une fois, par la force de son sujet, c'est un film qui aborde la question des enfants soldats. Mais pas que. C'est aussi un film, je trouve, qui a un vrai intérêt cinématographique. Alors, j'ai envie de dire que même s'il n'avait pour intérêt que de nous parler de ce problème, ça serait déjà fort intéressant. Mais il se trouve que c'est une vraie proposition de cinéma aussi, à mon sens. C'est-à-dire que, bon, Sékou Traoré n'est pas forcément un cinéaste dont on entend beaucoup parler en Europe. C'est pourtant quelqu'un qui a travaillé aux côtés de grands réalisateurs africains comme Ahmed Saleh Haroun ou Sissako. Et quand il a fait l'ouverture du FESPACO, donc grand festival panafricain de Ouagadougou en 2015 avec ce film, puisqu'il est sorti en 2015 au Burkina Faso. C'est un film qui a beaucoup fait de remous. Il a obtenu, il faut le savoir, lors de ce FESPACO, le prix d'interprétation pour ses deux interprètes principaux, que sont Maïmouna Ndiaye et Fargas Assandé. Et la première chose peut-être à noter, c'est que ce prix d'interprétation n'est absolument pas du tout usurpé. Je pense que l'interprétation, peut-être notamment de Fargas Assandé, est assez bouleversante et vraiment très très forte. C'est un film dont on ne sort pas indemne quand même, il faut le remarquer.
Sandrine, un petit mot sur les personnages ?
Oui, donc les deux personnages, donc Emma Tou, qui est avocate, et le rebelle, sont deux représentations de l'Afrique. Nous avons d'un côté la jeune avocate ayant fait ses études en Europe, et de l'autre côté, le rebelle, qui est un enfant soldat engagé dans le front de libération à 8 ans, qui représente plutôt la bestialité. D'ailleurs, le jeu de Fargas Assandé est vraiment très animal dans cette cellule, dans cette cage au lion où la jeune avocate va se rendre pour essayer de le faire parler tout d'abord. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle, c'est aussi une nouvelle vision de la justice qui s'oppose un peu au trafic et à tout ce qui se passe en Afrique, dans certains pays.
Est-ce qu'il s'agit d'un film éprouvant pour le spectateur ? Est-ce qu'il laisse malgré tout quelques perspectives, quelques ouvertures un petit peu optimistes ?
Je dirais que c'est un film assez éprouvant, effectivement. La mise en scène, d'ailleurs, est très sèche et assez âpre, qui colle parfaitement avec la violence du sujet. Je pense que c'est quand même un film qui n'est pas très optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. C'est vrai qu'on y voit un peu tous les maux de l'Afrique qui sont montrés. Évidemment, on a parlé de la guerre civile, la violence faite aux civils, notamment aux femmes. Enfin, il y a quelque chose d'assez sombre dans cette vision, malgré tout, dans cette vision de l'Afrique.
Oui, je suis d'accord. Dès le départ, l'incipit est très violent. Avec des bruits de bottes de rangers et puis un homme muselé, hein, un vrai animal comme je disais tout à l'heure, et puis il y a des flashbacks, c'est peut-être là où c'est le plus dur, des flashbacks vraiment très éprouvants où bien sûr on y voit les exactions commises par les rebelles, mais dans le film, ce qui est intéressant, c'est que on peut se demander aussi qui sont les plus sauvages dans l'histoire, car les politiques sont mouillées, bien sûr.
Oui. Oui, c'est vrai que la corruption des élites, le pillage des richesses naturelles, et aussi sont des thèmes qui sont aussi évoqués. C'est aussi l'intérêt de ne pas nous dire précisément où se passe le film. On sait que le film a été en partie, en tout cas en partie, tourné au Burkina, mais le réalisateur tait le nom du pays, puisque ça pourrait être finalement n'importe quel pays d'Afrique, tant ces mots sont répandus malheureusement sur le continent africain. Et ce qui me semble intéressant aussi par rapport à ce dont on vient de parler, c'est en termes de scénario aussi ce qui est intéressant, c'est, alors c'est pas vraiment un film, enfin c'est dans un certain point de vue un film de procès, mais c'est aussi davantage que ça. Et puis il y a notamment plusieurs intrigues qui peuvent être suivies en parallèle. Je pense notamment à l'évolution, enfin aux répercussions que va avoir cette histoire de procès sur la vie de maître Ematou. Les pressions qu'elle subit, puis même au niveau plus intime, parce que forcément ça va renvoyer à des choses assez intimes chez elle, et puis aussi cette question morale, peut-on défendre l'indéfendable? Un monstre comme celui qui est jugé peut-il être défendu? A-t-il le droit d'être défendu? Enfin, ça met en jeu des choses qui sont assez intéressantes et qui dépasse presque le continent africain. Pour le coup, il y a un côté quand même un peu universel qui est assez intéressant.
Un petit bémol, c'est que cette femme, elle a étudié en Europe et elle incarne le changement. Et je trouve ça un tout petit peu dommage que ça ne soit pas de l'intérieur que ça se passe. Pourquoi ça serait forcément une avocate ayant étudié en Europe qui va être l'incarnation du changement et non pas que ça vienne de l'intérieur de l'Afrique, quoi?
Ouais, je pense que ça fait partie un peu de la vision très sombre, à savoir qu'il est quand même... on voit bien, les élites sont elles-mêmes complètement corrompues, donc oui. Tous les dirigeants sont corrompus. Et peut-être que l'espoir, justement, vient d'une jeune génération qui a pu faire ses études ailleurs et qui va apporter une vision nouvelle et peut-être une volonté de secouer un peu tout ce panier de crabes pour en arriver à des visions peut-être plus positives. Il y a quand même une tension dramatique qui est assez importante dans le film. Et un des côtés intéressants, c'est qu'on est vraiment tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Et là, il y a vraiment quelque chose en termes justement de construction narrative qui est assez intéressant quand même.
J'ajouterais une dernière chose peut-être, c'est justement cette dénonciation de tous ces enfants, ces 150 000 enfants soldats qu'on trouve en Afrique. Et surtout, le film... met le doigt sur le fait qu'il n'y ait pas de programme de déconditionnement de ces enfants soldats une fois qu'ils sont sortis de la rébellion, en fait. Donc ce sont des bombes à retardement et c'est quand même aussi ce que dénonce le film.
Voilà, nous vous conseillons d'entrer dans l'œil du cyclone de Sékou Traoré et de soutenir ce film.
Nous allons parler maintenant du film de Lynn Ramsey, Beautiful Day, qui avait obtenu à Cannes cette année le prix d'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix. Christelle, Thierry?
Oui, alors prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix, qui illumine le film, peut-on dire, paradoxalement, parce que c'est une figure assez sombre, mais prix d'interprétation tout à fait mérité, mais aussi prix du scénario pour Lynn Ramsey de façon un petit peu plus surprenante. Alors, je crois que Christelle, tu t'es malgré tout passionnée pour l'intrigue du film.
Effectivement, peut-être scénario un peu plus mince que n'aurait pu le laisser espérer ce prix du scénario cannois. Malgré tout, ce qui est à retenir, on parlait d'un personnage assez sombre, effectivement. On a d'ailleurs entendu ici ou là qu'il s'agissait un peu du taxi driver de Lynn Ramsey, ce qui finalement, dans une certaine mesure, est assez juste. C'est-à-dire qu'on va assister comme ça à une espèce de plongée en enfer d'un personnage qui perd complètement pied et qui, même s'il continue tout le long du film à habiter complètement le film, et d'une certaine façon un peu comme un fantôme qui va aussi traverser ce film. D'ailleurs, le titre original du film et qui est resté le sous-titre du film est You Are Never Really There, qui nous met un petit peu peut-être sur la piste de ce film de spectre.
Oui, qui était un meilleur titre, je trouve. En plus, on peut s'interroger sur ce côté un petit peu étrange des distributeurs qui remplace un titre anglais par un autre titre anglais qui dit à peu près
le contraire de ce qu'est le film, effectivement.
Voilà, sauf à prendre Beautiful Day comme une antiphrase, ce que c'est certainement.
Mais c'est une des répliques qui clôt le film, pour le coup, et bon, sur un optimisme peut-être un peu usurpé d'ailleurs. Donc on va être amené dans une spirale, donc, disais-je, de violence. La mise en scène est assez est à l'image, hein, de cette descente aux enfers, avec une violence très stylisée.
Oui, et cette performance, il faut y revenir, de Joaquin Phoenix, qui est quand même à 43 ans l'un des acteurs majeurs du cinéma américain et du cinéma mondial. On le connaît, rappelons-le tout de même, parce que ce sont des films dont on ne se lasse pas. Il est quand même l'égérie de James Gray. Il a interprété The Yards, La Nuit nous appartient, Two Lovers, The Immigrant, qui sont quand même quatre très très bons films. On l'a vu aussi plus récemment dans Her de Spike Jonze, on l'a vu dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Et là, voilà, c'est la confirmation d'un acteur qui joue réellement avec son corps, avec la masse que représente son corps, beaucoup plus qu'avec les dialogues du film, en l'occurrence. Et pour le coup, c'est littéralement impressionnant de voir le parcours de ce personnage qui, finalement, petit à petit, s'affranchit lui-même dans son trajet de comédien, s'affranchit du texte, du dialogue, et finit par être totalement crédible dans son rôle de passager fantôme.
Pour terminer cette émission, quelques mots, Thierry, de Marilyn, le dernier film de Guillaume Gallienne.
Oui, alors très très attendu est ce deuxième long métrage de Guillaume Gallienne, après Guillaume et les garçons à table, qui a connu le succès que l'on sait. Donc Marilyn, c'est l'histoire d'une femme qui se lance, qui part de sa campagne et qui va se lancer un peu à son corps défendant au départ dans le métier d'actrice, actrice de cinéma, puis actrice de théâtre. Et voilà, il faut bel et bien dire qu'il y a un vrai talent de la part de Guillaume Gallienne à camper des portraits de femmes, et cette Marilyn ne fait pas exception, d'autant qu'elle est interprétée par une camarade de travail de Guillaume Gallienne à la Comédie Française, qui est Adeline Dermy, qu'on a très peu vue au cinéma, et effectivement c'est une révélation, révélation très heureusement complétée par un petit rôle, mais un important de Vanessa Paradis, qui joue elle-même le rôle d'une actrice. Alors, à savoir si le film est proche ou plus ou moins proche de Guillaume Gallienne que son film précédent, eh bien je répondrai que c'est en réalité un film qui lui parle beaucoup, qui parle d'une certaine façon beaucoup de lui, d'abord parce que c'est un hommage aux femmes, et on sait que c'est un sujet qui intéresse énormément Guillaume Gallienne, mais aussi parce que c'est une ode littéralement au statut, au métier et au travail de l'acteur. Alors le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'il décrit les milieux du cinéma de manière extrêmement cruelle, et que le film débouche finalement sur une forme d'apothéose du théâtre, comme si l'humanité était du côté du théâtre, ce qui est quand même un petit peu paradoxal pour un film. Mais ce bémol mis à part, c'est un film extrêmement sensible, et un film qui, je pense, contribue à l'établir en tant que cinéaste, en dépit effectivement de cette peinture assez cruel du milieu. Alors pour se quitter, eh bien je vous propose un extrait d'un moment les plus forts du film, qui se situe à la fin, puisque Vanessa Paradis interprète la chanson du générique. C'est un titre de Léo Ferré qui s'appelle « Cette blessure ». C'est absolument magnifique. On en écoute un extrait pour se quitter. Nous vous souhaitons une belle semaine.
Cette blessure, où va ma lèvre à l'aube de l'amour? Où bat ta fièvre un peu comme un tambour? D'où part ta vigne en y pressant des doigts? D'où vient le cri le même chaque fois? Cette blessure.